Alors, comment former les nouveaux leaders? Point principal, l'obéissance immédiate au président de la réunion. On commence. Voilà, on est prêt? Oui, merci. On commence. Non, je plaisante. Avant d'entamer la deuxième partie, j'aimerais avoir des retours brièvement des quatre groupes, nos discussions, parce que je serais intéressé à voir s'il y a des points en commun par rapport aux choses les plus marquantes dans nos vies à nous qui nous ont poussé vers être leader. Alors, oui, merci. Donc, un résumé peut-être. Quelles étaient les choses les plus marquantes?
Une personne par table fait un résumé.
Merci, Joël, c'est bon.
D'accord. Thomas, viens dans le micro.
Je ne peux pas résumer. Oui. Je dirais peut-être un élément qu'on a peut-être soulevé, qui était intéressant, c'était le fait que dans nos vies, effectivement, on a tous des personnes qui nous ont influencés et qui ont été des jalons dans notre vie. Ce n'est pas forcément une personne, et puis il peut y en avoir plusieurs. Donc ça, c'était intéressant de le soulever. Que ces personnes pouvaient nous avoir marqués sur des points différents, que ce soit le côté pastoral ou plus... des points particuliers. Et sinon, il y avait le fait que... Peut-être qu'il expliquerait mieux par rapport à la rupture, c'est intéressant.
Oui, on a abordé la question du fait que c'est peut-être difficile pour certaines personnes d'être des pères en raison de ruptures qu'il y a eu dans leur vie. Et des ruptures qui font que ces personnes ont plutôt tendance à regarder vers le passé, avec la nostalgie, et ont du mal à retransmettre ce que pourtant elles ont appris et qui a déjà et des personnes qui ont beaucoup de qualités, mais qui ont du mal à retransmettre parce que quelque chose n'a pas été guéri dans leur vie.
Nous, autour de notre table, ce qui a été le plus marquant, c'est de voir que c'était dès l'enfance des personnes qui avaient marqué la majorité de nous, sauf un, mais bon, je ne dirais pas qui. Dès l'enfance, voilà.
Nous, on disait qu'il y avait bien sûr plusieurs personnes qui ont marqué. On a parlé de saison aussi, saison dans la vie, quoi. Et un des points communs, après notre tour, c'était étonnant de voir que la plupart du temps, c'était les gens qui nous ont marqués, c'est des gens avec qui on passait du temps avec. Où il y avait, on parlait de petit déjeuner, de repas, ouais. Plus d'être ensemble, d'être, et qu'il y avait des, peut-être moins dans l'enseignement pur, mais c'était du temps de qualité qui était passé avec les uns et les autres. On parlait de personnes qui nous ont marquées, pour lesquelles, à un moment ou à un autre, les uns ou les autres, on avait, si on avait besoin, ben on pouvait aller chez eux, on pouvait parler, on pouvait discuter autour d'un café, autour de petit déjeuner, ou d'autres choses comme ça. C'était un petit peu le fil rouge de notre groupe, là. Ce temps de qualité passé ensemble. Et d'être.
Nous également, ça a été, on va dire, deux groupes, ceux qui ont vécu avec Jésus en étant jeunes. C'est quelque chose qu'on a vraiment reçu, d'aller dans les familles et prendre des exemples de comment être papa, comment fonctionner en tant que couple, comment fonctionner dans le service pratique de Jésus, etc. Donc il y avait un exemple concret où vivre dans les familles nous a marqué pour certains. Et pour ceux qui sont venus à Jésus beaucoup plus tard, il y avait l'exemple plus formel, on va dire, plus par prédication et réception directement de ce qui était donné dans les qualités des gens. On disait qu'avec l'âge, en fait, souvent, après, on prenait moins un package, on prenait tout d'une personne, mais ensuite, on recevait les dons, par exemple, dans cette famille ou dans cette personne, un don formidable d'hospitalité, ou un don par rapport à la guérison, ou un don. Et c'était plus sélectif où on recevait ce que la personne avait à donner, et moins un package.
Merci beaucoup. Alors, des choses informelles et formelles, les deux. Beaucoup de personnes, des époques différentes, la jeunesse, l'enfance, etc. Ça continue et ça continue. Ce que je n'ai pas dit, et j'aurais dû le dire, c'est pour moi aussi, ce sont mes parents à moi qui m'ont vraiment influencé. Et donc, quand je pense à mes enfants, et vous pensez à vos enfants, à vous, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui seront les personnes qu'ils vont dire, « Ah bon, pour ma vie, ce sont mes parents. » Donc, c'est un vrai privilège. Et dans l'Église, on est parents spirituels. Alors, comment former? On rentre ici dans la pratique. Ce n'est pas possible de vous donner quelque chose qui couvre tout, mais je vais vous donner un résumé des quelques principes. Et en fait, on va regarder quasiment les mêmes principes qu'on utilise en élevant ses enfants. L'objectif principal du parent, c'est d'équiper et de préparer ses enfants pour l'avenir. Alors, nous avons un exemple aujourd'hui de petite. La responsabilité de Luc et Kat principale, c'est de préparer leurs enfants pour l'avenir. Il y aura un moment dans notre culture quand ils vont quitter la maison familiale. C'est dur, c'est triste, mais c'est vrai. Et pour aventurer dans le monde. Et vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas, pour les préparer. Mais comment ça se fait? Alors, réponse, on les aime, c'est facile. On leur apprend beaucoup de choses, c'est pas trop facile tout le temps. Au fur et à mesure, on leur accorde un peu de responsabilité d'une façon en fait grandissante selon elles. On les regarde, on les supervise un peu et on leur en parle tout le temps. Et puis, on les accorde davantage de responsabilité. Et puis, un jour, on les encourage vraiment de quitter la maison familiale, mais on reste en contact. La relation peut-être sera un peu différente. On continue à les aimer et à prier pour eux, pour elles. Et on utilise les mêmes principes dans l'Église pour former et pour finalement envoyer des leaders, de nouveaux leaders. Je vais vous donner des consignes que j'aime, voilà. Oh, ça. On a une liste des principes. Et je vais aborder toutes les choses dans cette liste ce matin. On commence et en fait on continue dans la prière. Avant de choisir ses disciples, ses apôtres, Jésus a passé toute la nuit dans la prière parce qu'il voulait savoir à qui il devait demander d'être ses disciples proches. Je vais lire les versets très connus, Luc chapitre 6, verset 12. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc forcément, il avait déjà plus de 12 disciples, une petite foule de disciples, dont 12 ont été appelés à être ses apôtres. Et en ce moment-là, à ce moment-là, il n'a pas choisi Matthias, merci, Barsabbas. Pourquoi? Non, Barsabbas. Parce que juste avant le jour de la Pentecôte, on a fait un choix entre deux disciples pour remplacer Judas qui est parti. Il était parti. Donc, Matthias Barsabbas était là depuis le vrai commencement avec Jésus, mais il a choisi 12 autres. Après avoir passé toute la nuit dans la prière avec son père, il a choisi Simon-Pierre, Jean-Jacques, etc., Thomas. Et de même, nous, en tant que leaders, nous devrions demander à Dieu, des jeunes leaders, des leaders de nouveau potentiels. On commence dans la prière. Ça ne se passe pas vraiment par hasard. C'est Dieu qui est souverain et il nous aide. Il nous parle, il nous montre des choses. Et peut-être nous pourrions prendre le verset dans Jacques, chapitre 4. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et dans certaines églises, peut-être, il semble qu'il y ait un manque de leaders potentiels pour l'avenir. Vous n'avez pas, selon Jacques, parce que vous ne demandez pas. Alors, on commence dans la prière. Et certains aspects de ce processus, cette liste, se terminent. Mais la prière ne le fait pas. Ça continue à jamais. Jésus priait, il a passé toute la nuit dans la prière, mais plus tard, il priait pour ses disciples tout le long du voyage de leur formation. Donc à la fin de l'évangile de Luc, le même évangile, 22, verset 32. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Jésus, il a continué dans la prière pour ses disciples. Jean 17, le fameux chapitre de la prière de Jésus, le prêtre, le souverain sacrificateur, c'est pour eux que je prie, ses disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc, à ce moment-là, il priait pour ses disciples. Et vous savez qui est le pasteur de l'église la plus grande dans l'histoire du monde? C'est le Coréen Yonggi Cho. Quelqu'un lui a posé la question un jour, il y a longtemps. Comment passez-vous la journée? Sa réponse, je prie. Vous priez pour quoi? Plutôt pour qui? Réponse, je prie pour mes leaders. Et lui, il avait une responsabilité de diriger l'église la plus grande de l'histoire du monde. Il passait sa journée dans la prière pour ses leaders. C'est marquant, c'est frappant ça. Et donc je me pose la question, et peut-être vous pouvez vous poser la même question. Est-ce que moi, en tant que leader, et moi je n'ai pas l'église la plus grande de l'histoire du monde, c'est un peu plus petit. Mais est-ce que je prie plus pour mes prédications ou pour mes nouveaux leaders. Nous pouvons examiner notre vie de prière, je pense, en tant que leader. Quelles sont les priorités dans la prière? On prie pour notre vie en tant que couple, bien sûr, notre mariage, nos enfants. On prend peut-être le modèle du Notre Père. Donc il y a de la louange, il y a de la prière pour nos besoins quotidiens. Oui, oui, oui. Mais si on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ça veut dire quoi? Pour Yonggi Cho, ça veut dire qu'il prie pour ses leaders. Donc j'aimerais que vous examiniez votre vie de prière dans le privé, vous seul. Vous priez pourquoi? Si vous n'avez pas de leader potentiel dans votre église ou implantation, vous priez pourquoi? Pour que Dieu vous en donne. Et si vous en avez, vous priez pour quoi? Moi, je vous propose vraiment de prier. Une grande priorité dans la vie de prière que vous avez pour de nouveaux leaders. Et leur famille, et leur mariage, et leur avenir. On commence dans la prière. Deuxième chose. Oh non, ils sont tous là. Identifier. On regarde autour dans l'église qui sont là. Voici une question. Quand de nouvelles personnes arrivent dans votre église, peut-être après un déménagement, peut-être un nouveau converti, comment les voyez-vous? Peut-être vous les voyez, une personne arrive et vous voyez quelque chose de difficile dans leur vie. On dit en anglais, ils apportent baggage, des bagages spirituels. Ça se voit quelquefois. Et on pense, oh non, mince. Ou est-ce que vous les voyez d'une façon différente? Peut-être avec les yeux de notre Seigneur. Comment lui, il les voit? Il les regarde? Cette nouvelle personne, homme, femme, vieux, jeune, ado, nouveau converti, comment Dieu, il les voit dans votre église? Un jour, lui, il va prendre de la responsabilité. Parce que je suis le Dieu de grâce et je peux tout faire. Mais nous, nous avons des yeux voilés par rapport souvent aux nouvelles personnes. Nous voyons les empêchements devant lui, devant elle. Et donc, on se recule un peu pour se concentrer ailleurs. Voilà, je cite un autre pasteur de l'Est, un pasteur thaï, Joseph C. Wongsak, Thaïlande. Il était l'orateur principal lors de la conférence Nouvelle Frontière à Brighton il y a 20 ans. Il nous a dit, je vois chaque nouvelle personne qui entre dans mon église, chaque nouveau converti qui vient dans mon église comme un futur leader potentiel. Chaque personne. Oh, ça change la mentalité. Nous venons de commencer à Lyon. Alors, est-ce que nous allons voir et considérer chaque nouvelle personne comme un futur leader, quelqu'un qui va prendre de la responsabilité pour un, je sais pas, un projet social, un ministère, je sais pas, être parent peut-être. Mais lui, c'est ça qu'il fait. J'aimerais le suivre. Dieu, il nous donne des yeux. Donc, utilisons-les. Qui parmi vos jeunes semble être suivi par d'autres, en quelque sorte? Pourquoi le suivent-ils? Pourquoi ils aiment être avec cette personne? Mais il faut faire attention. Parce qu'il se peut... Oh, on est où? Désolé. Toujours j'oublie. Voilà, identifié. Les yeux. Ce n'est pas Joseph Sewanzak, c'est un hibou. Voilà, utilisons nos yeux. Mais il faut faire attention. Parce qu'il se peut que les autres jeunes dans votre église suivent une autre personne à cause de sa personnalité charismatique, etc., plutôt que son caractère et sa relation avec Dieu. Donc, il faut utiliser les yeux. Qui parmi vos jeunes gens sont vraiment passionnés par ce que Dieu est en train de faire dans l'Église et dans le monde? Qui parmi vos jeunes gens prennent l'initiative eux-mêmes? Qui comprennent, qui vivent vraiment sous l'autorité des leaders actuels? Rappelons que Jésus a beaucoup aimé le fait que le centenier y comprenait l'autorité. Nous prenons, nous utilisons les mêmes principes. Si quelqu'un est sous l'autorité, il peut en prendre également. Utilisons les yeux. Oui, on utilise ses yeux, mais on prie en même temps, parce que la prière, ça continue. Que Dieu nous donne de l'inspiration et de révélation qui vont bien au-delà de la simple observation. Samuel avec David, par exemple, il a vu les qualifications des 7 frères de David. Mais Dieu lui a dit de prendre et d'oindre un autre qui n'était pas là, que Samuel n'avait jamais rencontré. Mais Samuel était dans la prière, il marchait avec Dieu et Dieu lui a donné de l'inspiration, de révélation. En voyant Eliab, donc le premier frère, le plus âgé, il se dit certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, on utilise les yeux, mais le cœur aussi. Élie n'avait peut-être jamais rencontré Élisée, mais Dieu lui a dit d'aller le chercher. Donc, former de nouveaux leaders, on regarde, on observe et on prie. Et Dieu nous parle. Troisième chose, recruter. Encore une fois, l'exemple de Jésus. Marc chapitre 1. Verset 16, Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Si vous dites à un jeune que vous aimeriez passer de temps avec lui ou elle en tant que leader, en encourageur, etc. Vous donnez de l'espoir à cette personne. Surtout si vous pouvez expliquer pourquoi. Jésus a donné la raison, l'explication, la définition. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Suivez-moi. Encore une fois, Marc, chapitre 3, verset 14. Il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pour Jésus, former des disciples, d'abord, dans un premier temps, c'était simplement de pouvoir être avec lui. Donc ce n'était pas forcément son enseignement systématique, mais c'était le fait de pouvoir être, de pouvoir s'asseoir, de pouvoir marcher avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et puis, Jésus leur donne une définition claire. Vous serez avec moi pour un jour prêcher et chasser les démons. C'est clair. Mais, encore une fois, je pense que nous devons faire attention avec des promesses faites aux jeunes. Ce n'est pas sage de dire au début au jeune Timothée que vous trouvez dans votre église que vous pensez qu'il pourrait devenir un jour le prochain Billy Graham ou l'apôtre Paul ou quelque chose comme ça. Pourtant, c'est bien d'éviter que ce soit trop flou. Donc, on encourage. On reste vraiment dans la sagesse, mais on donne de l'espoir aux jeunes. Recruter. Voilà, c'est en anglais, désolé, mais j'aime cette affiche. Votre pays, on a besoin. Vous. Les passages. Et voilà, former maintenant. Ça veut dire quoi? On commence à s'investir dans les vies des jeunes ou des futurs leaders en passant, comme Jésus a fait avec ses disciples, du temps ensemble. Peut-être un à un, peut-être, mais dans le contexte d'un groupe aussi. Et je suis en train, dans mes temps de lecture le matin, de lire, relire les évangiles. Et je ne vois pas beaucoup d'occasions où Jésus a pris du temps un à un avec ses disciples. Forcément, il a dû le faire, mais ce n'est pas évident. Plutôt groupe de 3, groupe de 12 et plus. Jésus a passé beaucoup de temps, 3 ans avec ses disciples. Mais habituellement, dans ces groupes, Pierre, Jacques et Jean, un groupe de 3, ou avec les 12, etc. Mais pas forcément en passant tout le temps en priant ensemble et en étudiant les Écritures ensemble. Il voulait que ses disciples soient avec lui. Et moi, je suis convaincu que faire des disciples, ça se passe dans la vie plutôt que dans la salle de classe. En mangeant ensemble, en marchant ensemble, en se régalant ensemble, en étant famille ensemble. En Angleterre, nous avons eu beaucoup de locataires court terme chez nous. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, deux fois, je pense. Ils ont pu voir la famille dans toute sa gloire et de toutes ces autres choses. Mais on apprend beaucoup. C'est pas exprès. On est juste là et on voit. On regarde et on apprend. Il faut que vos futurs jeunes leaders voient votre vie. Votre mariage si vous êtes marié, votre famille si vous avez des enfants, votre style de vie, comment vous dépensez votre argent, quelles sont vos priorités, quelle est l'ambiance, l'atmosphère dans la maison, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un débat entre mari et épouse, etc. Comment ça se fait, comment ça se règle, etc. Et je suis vraiment pour la formation théologique, systématique, vraiment pour, mais faire des disciples, ça se fait beaucoup plus dans la vie. Je veux vraiment souligner ça. Ça se fait dans la vie. Ça se fait au quotidien, plutôt que dans la salle de classe ou à la fac. Et je vais parler plus tard de l'importance de la connaissance de la Bible, bien sûr. Mais faire des disciples, ça se fait chez moi. Ça se fait chez vous. Ça se fait dans la rue, à la campagne, etc. Et nous pouvons nous rappeler que Paul demandait que les gens l'imitent comme lui, il imitait Christ. 1 Corinthiens 11:1. Soyez mes imitateurs, c'est difficile, comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que moi et est-ce que vous, est-ce que nous avons quelque chose en nous digne d'être suivi? Parfois, je trouve de la fausse modestie parmi les chrétiens. Oh non, 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 j'ai pas beaucoup. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu et un peu d'expérience, c'est un bon mélange. Et bien sûr, on peut tout gâcher, c'est clair. Mais nous devons nous rendre compte que Dieu nous a donné quelque chose digne d'être suivi par d'autres. Il n'y a pas de place ici pour la fausse modestie. Moi, j'ai eu le privilège de passer 2 semaines en Inde avec David Devenish il y a longtemps maintenant. La raison, c'était parce qu'il m'avait dit, « Ah, Georges, si tu vas implanter une église en Angleterre avec mon soutien, il faut qu'on se connaisse, quoi. Viens en Inde. » Ah bon, mais Dave, tu habites à Bedford, ce n'est qu'à 1 heure de chez moi. And. Ah bon, d'accord. Alors 2 semaines. Et j'ai beaucoup appris simplement d'être avec lui. Ce n'était pas jour après jour après jour de longs enseignements pour moi, non. J'étais avec lui, je regardais, j'apprenais beaucoup. Juste le fait d'être avec lui. Un jour, il y aura des gens qui vont vous remercier de leur avoir donné l'occasion d'être avec vous dans vos maisons. Un disciple de Jésus, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit Jésus en vivant, en étant, en croyant et en agissant comme lui. Et en formant d'autres, moi je pense qu'on est joueur-entraîneur. On est là, sur le terrain, formé, on joue avec. On passe du temps ensemble. Voilà, ça marche ici. C'est ça que nous avons fait lors de notre week-end à la campagne en tant qu'implantation d'église. Beaucoup de pétanque. La vie ou la fac, un Corinthien, et voilà. Joueur-entraîneur, c'est vous. Et puis, formé et maintenant équipé. Moi, je vais vous donner trois exemples, trois domaines pour équiper d'autres. Tous commencent avec un C. Alors, connaissance. Il faut que vos nouveaux leaders soient vraiment équipés dans leur connaissance de la Bible. C'est primordial. On commence avec la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un bon livre? Oui. C'est beaucoup plus que ça. Toute écriture, ça veut dire tout verset est inspiré de Dieu. Et tout verset, et tout passage, et tout chapitre, et tous les livres de cette merveilleuse Bible est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous connaissez ce verset de Timothée 3, 16. Alors, si vous partez et vous laissez, vous passez le flambeau aux autres qui n'ont pas une profonde connaissance de ce livre, quelles sont les choses qui vont arriver? Parce que toujours, on est en train de regarder, d'entendre des enseignements faux. Je dirais des faux prophètes. Il y en a. Et si les leaders, l'équipe de leaders, les responsables de votre église, n'ont pas une profonde connaissance de ce livre, ce sera la catastrophe. Donc, équiper, ça veut dire, premièrement, la Bible. La théologie, oui. La doctrine, oui. Donc, est-ce que vos nouveaux leaders, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre aux questions qui vont venir? Il faut. Et puis, peut-être une connaissance de l'histoire de l'Église. Parce qu'on apprend beaucoup de l'histoire de l'Église. On apprend du passé. Peut-être on est énormément encouragé par les histoires de réveil, par exemple. Moi, j'en ai lu plusieurs récemment. Ça m'encourage beaucoup. Des pionniers de la foi. Nous voulons être des pionniers de la foi. Donc, on lit des histoires. La lecture, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Vous allez me répondre, je lis la Bible. Merci. Il faut continuer. Est-ce que vous lisez autre chose? Moi, je suis en train de lire un roman par Émile Zola. Et il faut que je sois vraiment dans la culture française. Mais je lis autre chose aussi. Et vous? Moi, je trouve les commentaires de Phil Moore sur les livres de la Bible génial. Je sais, en ce moment, ils ne sont qu'en anglais. Mais pour moi, ça me stimule beaucoup. Donc, je suis en train de lire sa commentaire sur le livre des Actes des apôtres. Et vous? La lecture. Et vos jeunes leaders? Ils lisent quelque chose? La Bible plus. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour nous. Donc, équiper, connaissance. Mais équiper, ah, ça c'est très important, caractère. Voilà. pour le leader, le caractère est beaucoup plus important que toute une gamme de dons spirituels, expériences et tout ça. Le caractère, on commence là. Et pour la formation, il ne faut pas sauter le caractère. 1 Corinthiens 13, 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, et même la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Le caractère, l'amour, dans cet exemple. Est-ce qu'on choisit un Saül ou un David? Parce qu'il y a une différence entre les deux. L'Éternel, selon Samuel, il s'est choisi un homme selon son cœur. Et nous voulons avoir des églises dirigées par des responsables qui ont de très bons caractères, un caractère fort et bon et spirituel. Et on ne prend pas les risques avec du caractère. Peut-être avec un manque d'expérience. Oui, bien sûr que oui. Et on n'est pas parfait. Mais s'il y a des choses difficiles dans le caractère, ça doit être réglé, selon moi. Moi, je préfère prendre des risques avec autre chose que du caractère. Samson, wow, une onction extraordinaire, mais peu de bon caractère, peut-être jusqu'à la vraie fin de sa vie. Donc, on forme par rapport à leur caractère. Et en pratique, comment ça se fait? Quelles sont les questions qui doivent être posées? Comment se comporte-t-il ou elle envers les autres dans l'église? S'il s'agit d'un homme, envers les filles par exemple, envers les personnes plus âgées, comment se comporte-t-il? On observe. Comment gère-t-il ou elle ses finances? Ça fait partie du caractère. Est-ce qu'il est généreux en donnant de son argent, de son temps, de ses énergies? Arrive-t-il à l'heure pour les événements que vous organisez? Je sais qu'il y a des différences de culture. Et si on était en Afrique, peut-être je ne pose pas cette question. Je suis dans le sud de la France, où tout le monde sait comment arriver à l'heure pour le travail, et le train, et le bus. Donc, l'église? Comment se porte-t-il, ou elle, la déception dans sa vie, la frustration, l'échec? Souvent, je pense que comment gérer mes émotions autour d'un échec ou déception, ça fait quelque chose, ça fait construire quelque chose dans ma vie, ou ça fait détruire. Comment gère-t-il la déception? Et puis, donc, on a connaissance, caractère et finalement compétence. Bien que le caractère soit primordial, il est important aussi que cette personne ait quelques dons. Un petit don. Un tout, tout petit don. Un jour. Mais les siens sont lesquels? Peut-être c'est la prière. Peut-être c'est diriger, présider une réunion. Peut-être prêcher, un ministère pastoral. L'encouragement, ça c'est très, très important. Moi, j'aimerais qu'on ait beaucoup plus, davantage de gens dans nos églises qui ont le ministère de l'encouragement. Des Barnabas. Peut-être il a un don d'administration. Ça, c'est très important aussi. Et beaucoup d'autres choses. Mais quels sont les siens? Donc, on l'encourage dans ses dons et peut-être on prie avec lui pour que Dieu lui donne davantage. Connaissance, caractère, compétence. Équiper, voilà le jardin. Accompagner. On fait des choses ensemble. Avant l'envoi final, on fait des choses ensemble. Jésus a fait pas mal de choses avec ses disciples. Alors, il a marché. Les disciples ont pris les petits épis au champ. Il a amené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de Transfiguration et même dans la maison de Jaïrus pour la résurrection de la fille. Ils ont vu quelque chose. Jésus les a amenés sur le lac, dans la tempête. Donc, une occasion de grande pression. Jésus les a amenés. Donc, les situations très diverses, nous pouvons faire la même chose. Des congrès, des conférences, oui. Des visites aux autres églises, peut-être, si vous le faites. Puis, on peut discuter, puis on peut apprendre ensemble. Si quelqu'un dans l'église vous demande de prier pour lui ou elle, par rapport, je ne sais pas, une guérison, une délivrance, quelque chose comme ça, est-ce que vous prenez un jeûne pour aller ensemble? Encore une fois, en Inde, j'ai beaucoup appris simplement d'être là avec Dave et je le voyais en chassant les démons. Quel privilège! Et puis le soir, il m'a dit, c'est ton tour. Ah bon? Mais je l'ai vu, je l'avais vu. J'avais appris quelque chose. Et j'avais vu que le nom de Jésus, c'est puissant. Ça marche. On fait des choses ensemble. Et j'aimerais souligner l'importance de l'encouragement et l'affirmation. Il faut que cette personne sache que j'ai confiance en lui, même si il éprouve des problèmes, des échecs. Mais malgré un manque d'expérience, il faut qu'il sache que moi j'ai confiance en lui. Parce que Dieu a confiance en lui. Il est une nouvelle création. Donc il faut qu'on ait confiance en lui, cette nouvelle création. Et petit à petit, juste comme le parent avec l'enfant, il peut prendre plus, davantage de responsabilités. On fait des choses ensemble. Et puis, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et moi, vraiment pratique, moi j'ai trouvé très très utile, sans que je l'avais fait exprès, mais j'ai amené des gens de notre église en équipe. Même ici à Marguerite, il y a 6 ans, 7 ans maintenant, l'Afrique du Sud, la Guinée, et ce sont des occasions très fortes, très fortes pour apprendre des choses ensemble. On vit ensemble en tant qu'équipe, on éprouve des difficultés, des choses culturelles difficiles ensemble, on apprend. J'aime ça beaucoup, 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 d'aller quelque part en équipe. Alors, on continue maintenant. Voilà, accompagné, pas forcément en avion, mais on est équipe. Développer, ça continue. En Luc chapitre 9 et 10, nous voyons le développement des 12 et puis les 72. Et ces deux chapitres sont des envois avec des instructions de Jésus très claires, nettes. Et maintenant, j'aimerais qu'on lise quelque chose. Donc, si vous avez vos Bibles, Luc chapitre 9. Nous pouvons voir beaucoup de principes très utiles ici. C'est ce que Jésus a fait. Nous pouvons suivre son exemple. Alors, Luc 9, 1 à 5. Il rassemble les douze et il leur donne quelque chose. Force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il donne des instructions. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique dans quelque maison que vous entriez. Restez-y. Et si c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, etc., etc. Alors, on a ici l'envoi, le premier envoi des disciples avec instruction. Et puis, on continue, verset 10, les apôtres sont de retour. Ils reviennent. Et Jésus se retire à l'écart avec eux. Pourquoi ? Pour entendre leurs histoires et pour continuer à leur apprendre. L'apprentissage continue. Donc ce n'était pas l'envoi final, c'était un premier, un développement. Luc 9, 11, et Jésus, il continue à guérir les gens pendant que les disciples le regardent. Donc, son exemple, ça continue, son modèle, ça continue, il regarde, il apprenne. On tourne la page, Luc 10, de nouveau, un envoi, Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Autres. Donc, maintenant, 70 plus 12. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit instruction. Et puis, verset 17, Luc 10, 17, les 70 sont de retour avec joie pour tout raconter, avec tout leur waouh! Jésus, tu as fait ça, Dieu a fait ça, on a chassé des démons, c'est magnifique, les malades sont guéris. Donc des témoignages pour que tout le monde se réjouisse. Verset 18, Jésus, il se réjouit avec eux, bien sûr, il leur avait envoyé et il les corrige un peu. Donc son enseignement continue. Oui, vous faites bien de vous réjouir, mais il y a des choses même plus importantes. Voici un simple modèle pour nous peut-être. Dans l'église, moi je suis leader, voilà, je fais quelque chose pendant que tu me regardes. Peut-être, je ne le fais pas très bien, mais j'espère que oui. Mais je fais quelque chose, tu me regardes. Deuxième étape, nous le faisons ensemble. Troisième étape, tu le fais. Pendant que moi, je t'observe, je te regarde et on va en parler. Et finalement, tu le fais seul parce que moi, je suis ailleurs. Je fais autre chose avec une autre personne. J'ai confiance en toi. Donc, ce sont des étapes. Et Jésus, ce sont les principes que Jésus a utilisés. Moi, je fais, je guéris les malades. Et maintenant, on fait ensemble. Maintenant, tu le fais. et tu seras de retour. Mais finalement, l'envoi. Et vraiment en pratique, j'aimerais que vous imaginiez que nous avons une réunion de prière maintenant. Et que moi, je dirige la réunion. Si je suis en train d'essayer de former un nouveau leader, c'est bien d'avoir lui à côté de moi. Parce que de temps en temps, pendant la réunion, on ne sait que faire. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose, de nous diriger en telle ou telle direction. Mais on peut en parler avec cette autre personne. Qu'est-ce que tu fais que le Saint, qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, on termine maintenant? Non, c'est trop tôt. On reprend un chant? Oui, mais pourquoi? Moi, je pense que le Saint-Esprit, il est en train de nous diriger vraiment pour la prière pour certaines personnes. Par exemple, si vous étiez là hier soir, à un moment donné, Joël a eu une parole de connaissance, je pense, une prophétie. Il a donné, parce que tu l'as eu plus tôt pendant la réunion, et voilà, on a pu prier pour quelques personnes. Mais en dirigeant la réunion, on peut en parler. Est-ce que tu as quelque chose? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses à cette langue? Est-ce qu'on a vraiment eu l'interprétation? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie. Ah bon? Ah oui. Alors, il faut attendre. Donc, on peut en parler. En forme. Même dans une réunion. Et la prochaine fois, c'est lui qui dirige. Et moi, je suis là, à côté de lui. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc? C'est bien ça. Ouais, vas-y. Et ça, mais on parle. On communique. On se communique. C'est très important. Et dans une réunion de prière, même le culte de dimanche matin, dimanche après-midi, pourquoi pas? On apprend beaucoup comme ça. Alors, finalement, c'est lui qui dirige. Et moi, je fais autre chose. Peut-être je me tiens à côté de quelqu'un d'autre dans la réunion en disant, pourquoi Rémi? Il dirige de telle façon. Ouais. C'est pourquoi. Parce que lui, il a reçu quelque chose. Ça se voit très bien. Mais on communique. Très important. Finalement. Le développement, voilà, en pratique. Dernière chose. L'envoi. Notre but en former des nouveaux leaders, c'est que eux-mêmes, ils seront capables de former d'autres. Alors, 2 Timothée 2:2, un de mes versets préférés. Ce que tu as entendu de moi en présence des témoins, confie-le à des hommes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, on a des générations de leaders dans ce verset. Tu as entendu quelque chose de moi, Paul, Timothée. Donc, Timothée, confie cet enseignement à d'autres, à des hommes capables, 3e génération, de l'enseigner aussi à d'autres, 4e génération de leaders. Un verset. Quel principe? Et finalement, c'est ça l'envoi. On n'est pas parfait. Jésus, il a envoyé ses disciples, Matthieu chapitre 28, il n'était pas parfait. Même ce, oui, quelqu'un qui s'appelle Judas, etc. Mais même après ça, même après la résurrection, Matthieu chapitre 28, je ne sais pas, mais c'est verset 10, 7 peut-être, il y avait quelques-uns qui doutaient. Même après la résurrection, et Jésus, ils s'en fichaient, il avait confiance en eux. Voilà, allez, faites des disciples de toutes les nations. Nous voulons avoir des jeunes maintenant qui deviennent bientôt des hommes et des femmes capables à former d'autres hommes et d'autres femmes par la suite. Et par la suite, une quatrième génération. Et Jésus, il est resté en contact continuel avec ses disciples à travers par le Saint-Esprit. Et en utilisant le même principe, même après avoir envoyé les gens pour faire quelque chose, soit ailleurs, soit dans l'Église. Nomination d'anciens, nomination groupe de vie, projet social, etc. Mais reste en contact. Ils ont vraiment maintenant l'autorité d'aller, de marcher, de courir, mais reste en contact. Comme Jésus est resté en contact avec ses disciples. Et nous avons, nous sommes une famille d'église. Donc c'est un privilège de pouvoir faire des choses en relation l'un avec l'autre. On envoie des gens imparfaits et on a confiance en Dieu qui est parfait. L'envoi, c'est une étape très importante. Ça fait partie de notre vision. Un jour, et puis après, et continuellement, il y aura des occasions d'envoi dans nos églises. Ça veut dire un temps de célébration. C'est la fête. Ça fait partie de notre vision, de notre raison d'être, d'envoyer des gens pour aller plus loin. Et nous sommes très reconnaissants parce que l'Église de Paris nous a vraiment honorés en partant pour aller, pour venir sur Lyon. On a eu un repas au resto et puis une heure sur une péniche, alors la scène, etc. C'était... Ils nous ont honorés. C'est la fête, c'est la célébration, peut-être avec des larmes, parce qu'on a des relations profondes, mais c'est la fête quand même. Et on voyait la dernière chose. Imaginez que vous soyez une équipe de 3 leaders dans votre église actuellement. Il vous faut au moins 6 autres maintenant. Parce que notre vision inclut implantation. Et notre vision inclut croissance. Donc si vous êtes 3 maintenant, vous aurez besoin de 3 pour implanter et 3 d'autres pour grandir votre équipe. Parce que l'église va grandir. Il vous faut 9, mais vous n'êtes que 3. Donc on revient vers le commencement, on prie. On identifie, on recrute, etc., etc. Et finalement, voilà, on y va. La prière continue. Évidemment, ce n'est pas possible, comme je disais, de tout dire, mais j'espère que ça va vous donner quelques principes assez pratiques. Je ne sais pas, peut-être il y a des questions, et s'il y en a, c'est Farid qui va répondre. J'ai une question pour Farid. Si vous donnez, si vous envoyez, le Seigneur, il sait vous redonner.